Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Bonjour à tous les auditeurs et merci de nous être fidèles depuis tant d'années. Je commencerai cette émission par une réflexion d'un philosophe. Le lapsus est intéressant parce que je vais vous parler tout à l'heure d'un livre de Jean-Luc Pouliquen qu'il a écrit avec Yvan Frias, le philosophe, autour de la poésie, 30 questions d'un philosophe à un poète. Mais le philosophe dont je voulais vous parler, il s'agit de Sioran. Nous sommes tous des farceurs, disait-il, nous survivons à nos problèmes. Et au sujet de la poésie, il disait, une poésie digne de ce nom commence par l'expérience de la fatalité. Il n'y a que les mauvais poètes qui soient, entre guillemets, libres. Et pour lui, le poète, il le définit c'est ainsi. Le poète, un malin qui peut se morfondre à plaisir, qui s'acharne aux perplexités, qui s'en procure par tous les moyens. Ensuite, la naïve postérité s'apitoie sur lui. Oscar Wilde, lui, avait une idée de la vérité. Il disait que la vérité est rarement pure et jamais simple, que si elle était l'un ou l'autre, la vie moderne serait bien fastidieuse et la littérature moderne une complète impossibilité. Mais avant d'aborder les auteurs de cette semaine, je vais vous lire une définition de la poésie. Ou plus exactement, comment il faut aborder la poésie. J'aime que la poésie soit rétive aux approches superficielles, aux jugements éphémères orchestrés ça et là. J'aime qu'elle exige du lecteur qu'il fasse lui-même un bout de chemin, et de préférence, le silence autour de lui, peut-être en lui. J'aime que de l'éthique du poète à la pratique du lecteur, certaines correspondances s'établissent. La poésie parle pour tous, même pour ceux qui ne la lisent pas. Eh bien, ce qui est aussi bien vu dans cette définition, que nous faisons nôtre également, hein, la poésie parle pour tous, même pour ceux qui ne la lisent pas. Et c'est pour ça aussi que nous continuons à cette émission, les poètes, pour ceux qui ne lisent pas la poésie, quand même, ceux qu'ils entendent leur parle. Eh bien, savez-vous qui a écrit ça? C'est un président de la République française, François Mitterrand. François Mitterrand. Espérons que les futurs présidents auront aussi autant de discernement pour les choses poétiques et les choses de l'art. Alors aujourd'hui, il va y avoir une émission un peu spéciale dans la mesure où cette émission va être recentrée, une fois n'est pas coutume, mais n'est-ce pas peut-être toutes les fois en définitive, va être recentrée sur la spiritualité. La poésie n'est-elle pas une forme absolue aussi de spiritualité, je le crois. Tout d'abord, nous avons reçu énormément de publications. Nous allons rendre compte de ces publications au fur et à mesure des semaines, mais que l'on ne dise pas que la poésie se porte mal dans la mesure où de tels livres de qualité, de grande qualité, la plupart du temps, de poésie paraissent. Alors bien sûr, ces livres ne rencontrent pas toujours un lectorat médiatique, médiatisé, qui permet de grandes performances sur le nombre de lecteurs. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont là, et ils sont là pour la postérité. Alors parmi les livres dont je vais vous parler, je vais simplement en citer un parce que celui-ci me semble tellement important qu'il fera l'objet d'une émission plus spécialement consacrée à cet ouvrage. Il s'agit d'un livre dont je vous ai tout à l'heure donné le titre, « Autour de la poésie, 30 questions d'un philosophe à un poète ». Et le philosophe, c'est Yvan Frias, et le poète, c'est Jean-Luc Pouliquen. Ce livre est préfacé de Myriam de Carvalho. Il est édité par Amazon, donc vous pouvez vous procurer ce livre en allant aux Amazon, mais également peut-être directement auprès de Jean-Luc Pouliquen, dont vous trouverez les coordonnées sur le compte rendu de cette émission, lorsque cette émission sera en ligne sur lespoètes.site. Nous citerons donc les références de Jean-Luc Pouliquen pour que vous puissiez vous procurer ce livre. Et je vous conseille vivement de lire autour de la poésie 30 questions d'un philosophe à un poète. Je vais simplement vous lire, je ne vais pas aborder ce sujet de la poésie, et simplement peut-être, oui, pour reprendre ce qu'il y a d'une façon cliché sur la quatrième de couverture où le philosophe demande à Jean-Luc Pouliquen, vous, poète très inspiré par la nature exubérante de la Provence, il vit à Hyères, hein, Jean-Luc Pouliquen, il a cette chance de vivre dans ce merveilleux pays de Hyères, et lecteur d'Empédocle, pourriez-nous parler de la sagesse poétique contenue dans ce vers du philosophe d'Agrigente ? Car je fus pendant un temps, garçon et fille, arbre et oiseau, et poisson muet dans la mer. Alors ça c'est d'Empédocle, ça c'est dans le livre de la nature d'Empédocle. Et Jean-Luc Pouliquen répond, heureuse période que celle des pré-socratiques, où poésie et philosophie faisaient route ensemble. L'intuition devrait toujours inspirer la pensée. Gaston Bachelard aura suivi ce chemin en retrouvant parfois l'image poétique à l'origine de l'idée ou du concept. Empédocle célèbre le tout que la haine fait éclater en morceaux et que l'amour réunifie. Nous ne sommes qu'une partie de ce tout que nous portons en nous-mêmes et que la poésie et l'amour nous révèlent. Voilà. Alors vous voyez que vraiment, rien que dans cette réponse, il y a une merveilleuse définition de l'utilité pratique, hein, de la poésie. Cette poésie qui arrive donc à nous révéler cette partie de lumière qui est en nous. C'est cette partie de lumière dont nous allons, de l'homme, que tout homme a en lui. Tout homme a cette partie de lumière, et c'est de cela dont nous allons parler au cours de cette émission. Je vais vous lire quand même un poème de Jean-Luc Pouliquen. Jean-Luc Pouliquen, donc, merveilleux penseur et merveilleux poète. Vibration. Cette vibration qui entoure tes actes, c'est dans ton cœur qu'elle a pris source. L'écho t'en reviendra aux couleurs de ton âme. Et puis saisir l'être. Saisir l'être dans son incandescence, dans cet instant où il habite déjà le futur, où il a signifié au présent sa date de péremption. Saisir l'être dans l'épopée de son destin. Donc de Yvan Frias et Jean-Luc Pouliquen, autour de la poésie, 30 questions d'un philosophe, un poète, préface de Myriam de Carvalho, chez Amazon, à vous procurer, et de toute façon, nous en reparlerons, je pense, avec l'auteur lui-même, du moins Jean-Luc Pouliquen. Deuxième grande annonce que je voudrais faire, celui-ci, je vais quand même y consacrer peut-être un peu plus de temps, parce que je ne pense pas avoir le temps de revenir sur cette publication. Je voudrais simplement vraiment... Alors là, on va quitter le monde de la poésie stricto sensu pour entrer dans le monde de la spiritualité. Mais ce monde de la spiritualité, comme vous l'avez bien compris, n'est pas séparé du monde de la poésie, puisque je pense que les deux domaines sont des domaines reliés, étroitement reliés. Et ce livre, c'est le livre d'un moine, d'un frère franciscain, qui est le frère Benoît Dubigeon. Frère Benoît Dubigeon, qui publie aux éditions Artege « C'est ton visage que je cherche ». Alors, dans la préface qui est signée de Michel Pansard, qui est l'évêque d'Évry-Corbeil-Essonne, il dit ceci en parlant du frère Benoît Dubigeon. Ses parents lui ont donné la vie, un nom qui est un appel à vivre, en disant et faisant du bien. Il ne manque pas de talent. Bien des possibilités s'ouvrent devant lui pour mettre en œuvre ses talents, exercer des responsabilités et avoir une place dans notre monde. Des rencontres de personnes fragiles lui font toucher du doigt la fraternité et rencontrer celui, avec un C majuscule, qu'il cherche et dont il est disciple. Il va poursuivre sa suite du Christ à l'école de François d'Assise et de la fraternité. Il est et veut être frère. En suivant des temps de l'année liturgique, le frère Benoît Dubigeon nous partage ses méditations et réflexions. Comme dans une tapisserie s'y entrelacent sans cesse les fils des événements de son histoire personnelle et familiale, les fils de l'expérience de ses nombreuses rencontres avec des personnes fragiles et fêlées, où retentit la voix de Dieu, les fils de ses accompagnements de personnes détenues à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, vécues comme des visitations, les fils de ses propres fragilités, les fils du livre des Écritures, témoins de la rencontre toujours actuelle de la parole qui de toujours à toujours est la vie, la suscite et la ressuscite, les fils de l'Eucharistie qu'il célèbre, nourriture de toute vie donnée, les fils de la tradition patristique comme de la tradition franciscaine pour faire coïncider des opposés. Chemin faisant, frère Benoît laisse entrevoir sa perception du travail de Dieu dans sa vie comme dans celle de ceux et celles qu'il rencontre. Car la vie humaine est magnifique, mais ô combien fragile et précaire. Un rien peut provoquer un drame immense. Et le monde n'est pas partagé entre les bons et les mauvais. En moi vit cette double face du meilleur et du pire, ce pire qui peut me valoir d'aller un jour en prison, ce saint qui me fait être bon envers les méchants. Là, l'évêque cite le frère Benoît Dubigeon. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière, dit Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu. À la suite de son Seigneur, frère Benoît s'est laissé regarder par le Christ et cherche à épouser son regard. Plutôt que d'avoir une vision critique des autres et du monde, j'apprends, comme saint François, à entrer dans cette vision christique de toute personne et de la création tout entière. C'est ce regard qui lui permet de déceler des transfigurations étonnantes au cœur de vie marqué par les ténèbres et qui le fait espérer pour tous. Cet Angèle de Foligno, qui est une franciscaine du XIIIe siècle, le résumé en cette formule. L'homme aime comme il voit. Croire et voir que tout est don, tout est lié, tout est fragile, est une grâce et aussi pour frère Benoît une tâche à accomplir. Depuis que je suis tout petit, je sais que cette phrase de l'Évangile, à qui l'on a beaucoup confié, il sera demandé davantage, me concerne particulièrement. Ayant beaucoup reçu, j'en suis responsable pour le redonner à mon tour. Comme cette femme qui a perdu une pièce et qui retourne toute la maison pour la retrouver, Dieu remue ciel et terre et fait tout le chemin pour retrouver ce qui était perdu et qui demeure sans prix à ses yeux. Aussi, tel un orpailleur qui remue des tonnes de sable pour trouver la moindre once d'or, frère Benoît continue, avec persévérance et avec la grâce de Dieu, de chercher, dans la rencontre de ses frères et sœurs en humanité, parfois si fortement blessés dans leur corps ou leur histoire, tellement compliquée, une dimension de leur être étincelant. Merci, achève Michel Pansard, évêque d'Évry, Corbeil-Essonne. Merci, frère Benoît, pour ce témoignage d'une vie persévérante et confiante qui porte du fruit. Merci de nous donner à voir que la parole de Dieu fait vivre. Alors ce livre de frère Benoît Dubigeon, c'est ton visage que je cherche, c'est un livre remarquable. Frère Benoît Dubigeon, on peut l'écouter, je crois, sur un programme de télévision où il dit la messe. Je sais qu'il a dit la messe, par exemple, à Valcabrère, dans cette merveilleuse petite église de Valcabrère. Ici, dans notre département, hein, à Saint-Bertrand-de-Comminges, en bas de la basilique de Saint-Bertrand-de-Comminges, cette magnifique petite église romane. C'est là que le frère Benoît Dubigeon a dit la messe un jour pour une chaîne de télévision, je ne me souviens pas laquelle, France 2, pardon, c'est France 2, excusez-moi. Voilà, France 2, puisqu'il est prédicateur donc de cette chaîne de télévision, donc France 2, qui a une émission qui s'appelle « Au jour du Seigneur ». Voilà. Donc, frère Benoît Dubigeon, il est franciscain, vous l'avez bien compris, il est moine franciscain. Alors, il est prêtre aussi, hein. Il est prêtre, il raconte d'ailleurs, frère Benoît Dubigeon, qu'un jour, il va vers un malade et il tape à la porte de la chambre de ce malade, et immédiatement le malade lui dit je n'ai pas besoin d'un curé. Et alors frère Benoît Dubigeon lui dit, mais sans réfléchir, mais je ne suis pas curé, je suis frère. Et alors le malade lui a dit, alors vous pouvez vous asseoir. Et le contact s'est noué. Voilà. Donc, une parole aussi simple. Je ne suis pas curé. Je suis frère. En définitive, le frère Benoît Dubigeon, il est aussi prêtre, puisqu'il est même aumônier. Pour être aumônier, il faut être prêtre. Aumônier à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis 2013. Et c'est quelqu'un d'extraordinairement actif, puisqu'il préside également cette fondation François d'Assise, hein, cette fondation qui soutient, vous savez, ce que l'on avait beaucoup instauré en Inde, par exemple, ces micro-réalisations dans des pays pauvres, c'est-à-dire les petits crédits
Il y a des petites réalisations, mais qui permettent effectivement d'avoir, de faire tourner une certaine activité économique et donc de pouvoir donner à vivre dans la dignité aux gens. Voilà, frère Benoît Dubigeon. Alors, vous avez retenu dans ce que j'ai lu cette phrase de lui, « Le monde n'est pas partagé entre les bons et les mauvais. En moi vit cette double face du meilleur et du pire. Ce pire qui peut me valoir d'aller un jour en prison. Ce saint qui me fait être bon envers les méchants. Je n'en finirai jamais de découvrir qu'un autre que moi me révèle qui je suis. » Et puis il va résoudre les contraires, le frère, dans ce livre, le frère Benoît Dubigeon, il va résoudre les contraires. Et en définitive, il dit que c'est ça, peut-être, la vocation d'une vie dans le respect du Christ, dans la voie du Christ, c'est d'arriver à cette résolution des contraires, c'est-à-dire de ne pas, bien entendu, trancher entre les bons et les méchants, dire que, eh bien, il faut s'en remettre et à découvrir que notre, que soi, donc, puisse nous révéler qui nous sommes. Alors dans ce livre, c'est ton visage que je cherche, aux éditions Artege. Le frère Benoît Dubigeon nous livre une méditation, donc d'inspiration franciscaine, puisque c'est au moins un franciscain, où le Christ visite notre prison intérieure. Donc l'aumônier de la prison, à son tour, il dit, mais il est visiteur de prison, le Christ, eh bien, il ne fait que ça. Il est comme moi. Il visite nos prisons intérieures. Et comme le chercheur d'or, il nous apprend la patience, la confiance et la découverte du seul bien précieux qui est la face lumineuse de Dieu et de chacun de nous. Je vais vous lire un extrait. Il y aurait beaucoup à dire. Je voudrais simplement vous donner l'envie, l'envie de vous procurer ce livre. Peut-être que j'y reviendrai dans d'autres émissions pour d'autres, parce que c'est un gros livre. Il fait plus de 300 pages. Je vais vous lire quand même un chapitre. Créé, tout est don, tout est lié, tout est fragile. Alors ça fait référence à une encyclique du pape François. C'est l'encyclique du 10 juin 2015 qui était Laudato Si. Et justement, c'est à partir de cette encyclique, et ce que dit tout est don, tout est lié, tout est fragile, que notre moine, frère Benoît Dubigeon, prêtre, a fait son homélie de la messe, donc qui a été télévisée sur France 2, donc, du jour du Seigneur, le 7 août 2022, à l'église, magnifique église romane de Valcabrère. Plus j'avance dans la vie, plus je me découvre chercheur de Dieu dans la création, chez les autres et aussi en moi-même. Moi qui ai fait des études scientifiques, alors il est ingénieur, hein, je fais une petite parenthèse, il est ingénieur, c'est-à-dire, bon, il a un haut niveau scientifique, où j'ai appris ce qu'un ingénieur doit savoir. Je me rends compte avec Socrate que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je ressens cela dans le champ scientifique, mais plus encore, dans la connaissance de la nature humaine. Plus je rencontre des hommes et des femmes d'origine, de croyances et d'engagements différents, et plus je suis émerveillé devant la beauté de la création de Dieu. Je découvre également, en toute personne, notre si grande difficulté à aimer, comme nous sommes aimés, et ce pourquoi nous avons été créés. Là où sont l'homme et la femme créés à l'image de Dieu, il y a du bon, du beau, du vrai, mais il y a aussi de l'hommerie.
Alors, l'homme rit, entre guillemets. Il veut dire par là, l'humanité, l'homme rit pour lui, c'est un mot qui veut dire l'humanité, mais l'humanité dans ce qu'elle a de plus abject, en définitive, dans ses plus mauvais aspects. Voir la création à sa mesure véritable, telle est la finalité de ma vie de chercheur. Devenir un être spirituel, animé par l'Esprit de Dieu, ne peut se faire et n'a de sens que si je suis enraciné dans l'épaisseur de mon humanité. Pas de vraie spiritualité sans enracinement dans ma vie, et ma vie ne découvre son sens que si elle est tournée vers plus grand qu'elle, vers une transcendance que j'appelle Dieu. Je médite beaucoup sur la vie, l'humanité, la Bible, et en particulier sur le prologue de Saint Jean et son évangile enraciné à ma modeste manière dans la vie de notre monde. Je lis dans ce prologue de Saint Jean qu'au commencement est Dieu, et le Verbe, la parole de Dieu, le Christ. La relation divine dans l'esprit préexiste à tout. Dieu est trine et un, et nous, nous sommes faits à son image. Dieu a tout créé par son Fils et en vue de son Fils. Quand il façonne l'homme que je suis ainsi que tout l'univers, il pense déjà à l'incarnation de son Fils. Tous, nous avons été créés pour accueillir le Fils, le temps de l'Avent. Eh bien, cette préparation à accueillir le Christ en notre humanité. L'univers et la création tout entière sont créés pour accueillir le Fils. Chacun de nous est appelé à être comme une crèche, une terre d'accueil, une maison, pour que le Christ vienne y révéler l'amour de Dieu. François a bien cette vision christique de l'univers. Plutôt que d'avoir une vision critique des autres et du monde, j'apprends, comme Saint François, à entrer dans cette vision christique de toute personne et de la création tout entière. Être chrétien, surtout pour le disciple de Saint François d'Assise que je sais d'être, c'est chercher les traces et l'image de Dieu dans toute la création, comme dans toutes ses créatures. Je comprends mieux aujourd'hui combien le développement durable consiste à bien articuler l'épanouissement de l'homme en société avec une économie solidaire pour faire progresser notre humanité dans un contexte de juste profit partagé et avec le respect de la création qui nous porte et nous nourrit. C'est ce triangle qui devrait être équilatéral à l'image de la Trinité qu'il convient de mettre en œuvre. Si l'un des côtés est atrophié ou cassé, les deux autres le sont également. Ce que j'ai appris de plus important chez Saint François d'Assise, c'est ma vocation à me conformer au Christ, à lui ressembler, lui, la parole de Dieu. Cette conformité avec le Christ trouve sa source dans la conformité du Christ à son Père. Saint Paul a écrit cette page magnifique qui inspira de très nombreux chrétiens, en particulier les premiers grands théologiens franciscains, Saint Bonaventure, au XIIIe siècle, et le bienheureux Jean Duns Scott, c'est un franciscain écossais du XIVe siècle, qui dit ceci. Le Christ, Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature. En lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Le Christ lui-même, dans son évangile, dira à ses disciples, « Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ce don est magnifique. C'est le don de mon existence. C'est, comme le dit Sainte Claire d'Assise, ma vocation dont j'ai à apprendre à remercier Dieu chaque jour. C'est la vie de mes proches, mais aussi la vie de celles et ceux qui me semblent moins aimables. C'est la création tout entière, l'amour qui bâtit ma vie, le bien qui vient de Dieu et sans qui n'est aucun bien. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop anticiper, amputer sur le temps des autres auteurs dans ce souci de spiritualité. Alors, il conclut par « Oui, tout est bon, j'ai tout à accueillir comme un don, avec foi et une grande confiance, tout est lié, j'ai à amplifier les liens de charité avec les autres et avec persévérance, tout est fragile, j'ai à protéger la vie pour qu'elle reste féconde malgré tout. » Voilà. Donc, on va retrouver, alors effectivement, bon, j'avoue que j'ai été absolument fasciné par l'ensemble de ce livre. Ça se dévore, hein, ce livre. C'est une prose qui est fluide, et puis on apprend tellement de choses à chaque page. Parce que j'ai cette expérience qui est la sienne. Mais lui, il la vit évidemment dans une permanence. Moi, je l'ai vécu dans une période très courte. C'est la vie de ce que l'on peut avoir avec les prisonniers. Je suis allé, moi, à la maison d'arrêt de Montauban pendant une période pour parler aux prisonniers de poésie. Voilà. Ça durait un an, où toutes les semaines, il y avait ces 2 heures en dehors du temps que je passais donc avec ces prisonniers. Et ces 2 heures-là, j'en suis persuadé, ils me l'ont après bien fait comprendre, en arriver à faire disparaître les barreaux de la prison. Il y avait 2 heures de liberté. Ces 2 heures de liberté, eh bien, c'était les poètes qui leur donnaient. C'était la lecture des poètes qui les faisait évader, donc pendant ces 2 heures. Et en même temps, c'est vrai qu'il est très difficile de dire. Parmi les prisonniers, il y a une grande humanité aussi, une humanité très très diverse. Mais le monde n'est pas partagé entre les bons et les mauvais, c'est plus complexe que ça. Alors je rappelle le titre, Frère Benoît Dubigeon, c'est ton visage que je cherche, aux éditions Artege, un livre donc d'une très grande spiritualité, un livre de grande espérance aussi, hein, vraiment absolument une grande espérance. À lire donc, et bravo aux éditions Artege de nous donner de tels chefs-d'œuvre à lire. Je voudrais maintenant, je pense être moins long, mais bon, vous parler de notre. Alors, on va rester dans la spiritualité avec deux auteurs, Nicolas Dieterlé, tout d'abord, dont les éditions Jazz Sauvage. Alors, ces éditions Jazz Sauvage, c'est des éditions, vous pouvez trouver le catalogue de ces éditions, bien sûr, vous le trouverez sur le net, mais vous pouvez le trouver, nous le répercutons, sur notre site, lespoètes.site, éditions Jazz Sauvage. Alors, ces éditions de spiritualité, mais alors là, nous sommes dans le protestantisme. Hein, voilà. Et ces éditions vont publier Nicolas Dieterlé, Troué, alors c'est le titre de cette publication, c'est Troué, au pluriel, Troué de lumière, fragment inédit de journaux, avec un avant-propos d'Olivier Millet, dans la collection Priem, donc de ces éditions Sauvages. C'est un livre qui vous coûtera 15 euros. Alors, Nicolas Dieterlé, nous avions ici parlé de Nicolas Dieterlé à propos des éditions de la revue Diérèse de Daniel Martinez, et qui, avec Isabelle Lévesque, avait sorti un numéro fabuleux, qui était un numéro double d'ailleurs. On était en 2013, hein, ça commence à dater maintenant, au printemps 2013,
la revue Diérès, c'est une revue trimestrielle de poésie et littérature que je vous invite évidemment à consulter ou à lire et donc à vous abonner, c'est gros numéro hein, chaque fois. Donc deux numéros avaient été consacrés, réunis dans une seule publication, à Nicolas Dieterlé. Un travail fabuleux qu'avaient fait donc Daniel Martinez et Isabelle Lévesque sur Nicolas Dieterlé. Alors, il y avait dans ces publications de Diérès beaucoup de choses. Je vous invite donc peut-être à revoir aussi notre émission là-dessus, qui doit dater donc de 2013. Sur cet auteur qui est Nicolas Dieterlé, je vais en dire deux mots le plus vite possible peut-être. Nicolas Dieterlé, alors, ça change beaucoup de parler de poète comme Nicolas Dieterlé. Quand nous vivons un monde de la culture et de la poésie, qui est un monde des apparatchiks, en définitive. Bon, Toulouse en est l'exemple, lumineux de cette absurdité, malheureusement, qui n'est pas sans conséquence, parce qu'elle nous prive, bien entendu, de beaucoup de choses. C'est l'arbre qui cache la forêt en permanence. Donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière l'arbre qui cache la forêt. À Toulouse, c'est le cas. Hein. Nous avons, voilà, c'est le règne de l'apparatchik. Poétique, hein, l'apparatchik politique, c'est celui qui va faire une carrière poétique, ce qui est une absurdité, une carrière poétique. Va faire une carrière poétique grâce à l'imbécilité, il faut bien le dire, des hommes politiques. C'est-à-dire au manque de discernement absolu, des hommes politiques qui sont des hommes submergés par les responsabilités et les activités et qui ne peuvent pas avoir le temps. Ce que faisait d'ailleurs François Mitterrand, lui prenait le temps. Quand il prenait l'avion, il pouvait prendre l'avion avec un vieux livre de poche qu'il relisait pendant le trajet dans ses péripéties. Bon, je reviens aux hommes politiques. Ceux-là ne prennent pas le temps, bien entendu, et puis ils n'ont certainement pas le goût de lire la poésie contemporaine, ils n'y connaissent rien. Alors, bien sûr, ben, ils vont subventionner. Et c'est grâce à cette manne donc, d'argent public que vont naître les carrières comme ça de poètes et d'activités poétiques qui naissent de cette manne, mais qui en définitive ne représentent qu'eux-mêmes. Nicolas Dieterlé, c'est pas du tout un poète subventionné, c'est pas du tout un poète âpre qui est à l'affût des prix, de machin, de la reconnaissance, des actions dont il va pouvoir, grâce à la manne publique, pouvoir mener. Non, pas du tout. Nicolas Dieterlé, c'est un poète authentique, comme l'a peut-être été Rimbaud. Nicolas Dieterlé, c'est un poète. En plus, il était peintre et dessinateur. Il est né le 28 août 1963, il est mort le 25 septembre 2000. C'est l'auteur de plusieurs recueils de prose et de poèmes dont la plus grande partie sont maintenant publiés. Maintenant, parce que Nicolas Dieterlé, il a écrit, mais il ne s'est jamais préoccupé des publications. Il ne voulait même pas publier ses textes. Alors, en deux mots, l'histoire de Nicolas Dieterlé, c'est une histoire du protestantisme. Il est normal qu'il soit donc dans cette collection jazz, des éditions jazz sauvage, hein, puisque ce sont des éditions à vocation d'auteurs protestants ou sur le protestantisme. Ses grands-parents paternels étaient missionnaires. Vous savez que les protestants, hein, souvenez-vous du docteur Schweitzer, sont missionnaires en Afrique pendant 30 ans. Et ses grands-parents maternels étaient d'ardents défenseurs donc de la religion, de la foi protestante. Alors il va passer son enfance au Ghana, au Cameroun, et dans un hôpital de brousse, donc de cette fameuse église protestante, où le père de Nicolas Dieterlé soignait puisqu'il était chirurgien. Et ensuite, bon, il va quitter l'Afrique. Ça va être d'ailleurs un drame, le fait de quitter l'Afrique, parce qu'il aura toujours cette nostalgie d'une vie beaucoup plus près de la nature. une vie peut-être beaucoup moins artificielle ou artificieuse, comme nous avons, nous, ici. Et il va faire ses études secondaires à Grenoble. Là, il va être passionné de lecture, de dessin, de musique classique. Il va vraiment révéler tout son tempérament artistique. Et même à Grenoble, si j'ai bonne mémoire, il va faire des études universitaires à l'Institut d'études politiques de Grenoble, et il est diplômé donc de sciences politiques à Grenoble. Il va être objecteur de conscience, et il va, comme tout objecteur de conscience, donc de 1987 à 1989, il va rester dans un centre de documentation. Et puis il va essayer de vivre de son travail de journaliste indépendant. C'est très difficile de rédiger des piges et de vivre de ça. Comme c'est quelqu'un qui a, vous l'avez vu, vous l'avez compris, une véritable culture universitaire, économique, hein, en ayant fait sciences politiques, on apprend pas mal de choses en économie. Ça lui permet de pouvoir traiter tous les sujets. Et il peint en même temps. Il va exposer ses œuvres dans un foyer de la rue de Vaugirard. Et ensuite, il va l'exposer en Bretagne. C'est d'ailleurs les seules expositions dans le foyer de la rue Vaugirard à Paris, et puis cette exposition bretonne là, où il va exposer ses œuvres. Voilà. Alors, il va retourner en Afrique, il va retourner au Bénin, puis au Cameroun, et puis il va être gagné par une certaine dépression, et en mars 2000, il va s'installer dans le sud-est de la France, là où est près de notre ami Pouliquen. Il va s'installer là, dans ce sud-est de la France. Il va commencer à préparer. Il va travailler sur Novalis, voilà, pour être aussi de la spiritualité. Et malheureusement, il ne parvient pas à surmonter cette dépression. Et il va mettre fin à ses jours le 25 septembre 2000. Alors, cette œuvre de Nicolas Dieterlé, qui n'a pas publié, hein, qu'on est allé chercher, et bravo à tous ceux qui l'ont exhumé et qui l'ont fait connaître, c'est une méditation donc sur la vie, sur la vérité, sur la poésie. Donc on est en définitive dans la même recherche que notre frère Benoît Dupigeon. Vu l'heure, je vais revenir au Trouée de Lumière. Dans Trouée de Lumière, il y a cette phrase de Nicolas Dieterlé. L'important, c'est que la profondeur se dévoile à la fin. La beauté, la joie l'accompagnent comme des sœurs. En nous alliant à elles, en nous l'incorporant, nous sommes sûrs de l'impunité. Nous serons forts comme des montagnes et légers comme des oiseaux. Je voulais vous lire un petit peu de l'avant-propos, qui est Olivier Millet qui a fait ça, mais peut-être je vais le réserver pour une autre. Je vais vous lire des extraits de ce journal. Des extraits du journal. De mars 95. Il est 20h. Et les chats de Michel sont dans ma chambre comme les acteurs d'un drame immobile. Un blues de Miles Davis déroule à la radio ses anneaux liquides sur lesquels plane une trompette. Nous sommes le jeudi 2 mars 1995 au cœur du temps. Le froid pince mes jambes. À ma droite, La lumière d'une lampe se coagule sur la tapisserie du mur. Maintenant, le blues de Miles prend une tonalité plus sourde. Rumeur annonçant du fond du temps quelques catastrophes, mais la catastrophe ne survient pas. Oh non ! Ce qui advient, au contraire, effraie, comme un visage inattendu. Un être déploie peu à peu ses ailes, sa voix, dans le grondement sourd qui prélude à ses jeux. « Je me ferai entendre, dit cette voix. Je m'élèverai jusqu'à vos oreilles obtuses, jusqu'à votre amour inintentionné. J'affronterai pour cela vents et marées, récifs, pirates sur les côtes. Je gagnerai la crique de votre tendresse oublieuse. Je saurai la réveiller de son sommeil et nous veillerons ensemble face à la mer comme des phares jumeaux. »
Voilà ce que dit le blues de Miles, à qui sait l'entendre. Et ce que j'aime dans cette trompette, c'est sa fragilité et son obstination.
Je tourne la cassette. Ah, mais maintenant, c'est tout autre chose. C'est une marche triomphale. Le succès flotte comme un drapeau à la crête d'une trompette délivrée de sa timidité. Les sons s'engrènent, cycliques, retentissants, comme participant à une guerre joyeuse. Plus d'hésitation, plus de remords, la vie délivrée.
Mars 95. Il y a en moi une blessure que j'arpente, solitaire. J'en fais le tour. J'en observe complaisamment le dessin. J'en note les élancements, les irradiations. Cette blessure tourne en moi comme un soleil solitaire. Un soleil blessé qui chute. En moi, il y a également une longue, longue patience qui s'emploie à soigner cette blessure, à la cautériser. Il y a une paix qui accumule des forces. Je la sens à l'œuvre, patiente et joyeuse, miséricorde infinie. Elle est comme une mer tiède et bondissante, lavant à grandes eaux les rochers meurtris, les rivages amers. Or, cette blessure et cette paix ont une origine commune. Voilà la vie, la profondeur de la vie, et dans cette contradiction aux racines mêlées, heureuses et lointaines. À partir de la souffrance, il faut créer de la beauté, le cri de douleur doit se transformer en chant d'acquiescement. C'est le but de tous les arts et c'est notre devoir d'homme. Finalement, la plupart des gens, moi y compris, se contentent le plus souvent de mâcher et remâcher leurs souffrances sans rien en tirer. Quel dommage, car au creux de cette herbe amère qu'est la souffrance, dort un filon inépuisable pour qui sait le trouver, une source d'or pur, vraiment.
pose quand même un problème essentiel. C'est, oui, combien de poètes ont été des âmes souffrantes ? Combien ? Plus exactement, y a-t-il des poètes qui ne soient pas des âmes souffrantes ? La réponse est oui, bien sûr. Il y a des poètes aussi qui ont des œuvres majuscules et qui n'ont pas été inspirés et qui doivent leur création à ce filon d'or dont parle Nicolas Dieterlé et qu'ils ont trouvé dans leur propre souffrance. Mais bien sûr, une partie importante, et c'est peut-être tout l'art, et peut-être dans cette définition de pouvoir faire de cette boue qu'est la souffrance, ce truc affreux qu'est la souffrance, d'en faire l'or que sera l'œuvre d'art. C'est ce qu'il dit d'ailleurs lui-même, Nicolas Dieterlé, dans son journal du 9 mars 95. La beauté est d'essence tragique. La beauté, la terrible douceur de la beauté, s'élève sur un socle de tourment. Alors, c'est vrai que ceux qui ont pu créer, qui nous ont donné cette beauté dont nous jouissons, parce que le mot, c'est vraiment une jouissance. Il y a là quelque chose aussi de contraire. La souffrance d'un côté, la jouissance que peut donner l'œuvre d'art de l'autre. Et c'est ça peut-être qu'il veut dire Nicolas Dieterlé, et c'est ça qu'il veut dire aussi le frère Benoît Dubigeon, dans cette réconciliation des contraires, où la jouissance que procure l'œuvre d'art, par exemple, prenons l'œuvre de Picasso, sur le Guernica. Quand on voit Guernica, c'est l'œuvre d'une grande souffrance, d'une grande colère pour avoir peint Guernica, ce bombardement de cette petite ville du Pays Basque, dans ce génocide donc de la population sur lequel les Allemands vont exercer leur pouvoir de terreur qu'ils emploieront ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce bombardement de Guernica qui fait que Picasso peint cette toile extraordinaire et qui est issue de cette colère, mais aussi de cette souffrance, va donner, qu'on le veuille ou non, une jouissance importante, immense même, à la contemplation de cette toile, parce qu'on en comprend toute la symbolique, on en comprend toute la portée, tout l'élan qu'elle nous donne. Et la poésie, c'est pareil, bien entendu. Et alors, continue Nicolas Dieterlé, et alors ce matin, j'ai découvert, peut-être était-ce au moment où je regardais, par la fenêtre du train qui m'amenait vers le Havre, le paysage plat de Normandie, ses églises qui se confondent avec les arbres et sont au ciel où les nuages se tiennent suspendus comme des lampes immenses, j'ai découvert donc que la pureté, celle après laquelle je cours depuis mes 18 ans et que j'ai cru trouver incarné dans des êtres, des paysages, des musiques, était tout entière en moi comme un trésor unique et palpitant. La pureté tout entière et inépuisable. Je ne suis pas clos sur moi-même, je ne suis pas solitaire, puisque elle est en moi, qui me prolonge à l'infini. Avec moi, je transporte certains yeux bleus, certains au ciel, certains rythmes ensorcelants, et tout cela forme ce qui n'est pas qualifiable, pas mesurable, pas délimitable le moins du monde. Je suis un véhicule gorgé d'une essence sacrée, et je ne peux qu'aller de l'avant en dépit des chaos inévitables. Or, grâce à Dieu, je ne suis pas que ce moi-même solitaire et dispersé.
Je suis la figure de proue d'un vaisseau immense qui file sur l'eau avec une admirable inclinaison et me remplit, me comble de ses vibrations légères, profondes. Sophie, par exemple, je la contiens. Et non seulement Sophie, mais toutes les femmes de la terre et tous les hommes, je les porte en moi. Leur beauté ne peut donc pas me faire mal, ou plutôt, leur beauté peut me faire mal, d'accord. Mais ce mal, pourvu qu'il soit pur, je l'accueille en moi. Je le porte avec moi comme une épée. Je saurai faire de ma souffrance une épée. Voilà, nous allons terminer là-dessus. Alors, quand il parle de cette pureté qu'il a en lui-même, hein, qu'il ressent en lui, qu'il l'accueille chez lui, je pense à ce que disait Simone Veil quand elle parlait de la joie pure. La joie pure. Vous voyez, hein, combien tous ces esprits, en définitive, disent la même chose, que ce soit le frère du Bigeon, que ce soit Nicolas Dieterlé, que ce soit Simone Veil, tout cela recherche ces trouées de lumière. Donc, titre de ce livre de Nicolas Dieterlé, ces trouées de lumière qui est le visage que l'on cherche aussi, la joie pure que cherchait aussi Simone Veil. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Vous disons à 17h. Et n'oubliez pas de regarder, vous, de réécouter cette émission sur lespoètes.site. Les poètes, tout attaché, sans accent, .site. Vous y retrouverez tout cela et toute l'actualité de la poésie aujourd'hui. À 17h.